Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran ce vendredi soir du 15 janvier 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Désigner Ansar Allah comme terroriste sape le règlement de la crise yéménite, a souligné le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. L'armée de l'air iranienne au plus haut niveau de dissuasion de la défense a souligné son commandant à un moment où la marine du corps des gardiens de la révolution a intercepté un sous-marin étranger dans la région du golfe Persique. Damas dénonce la coordination entre les États-Unis et le terroriste et la Corée du Nord exhibe ses missiles balistiques lors d'un défi. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, réagissant à la désignation par les États-Unis du mouvement populaire yéménite d'Ansar Allah comme terroriste, a déclaré « Cette décision affecte le règlement pacifique et l'action humanitaire au Yémen et sape également la médiation onusienne pour la paix dans un pays qui subit une crise humanitaire et sanitaire et catastrophique ». Réagissant à la politique du pire menée par le département d'État américain et la désignation du mouvement d'Ansar Allah comme une organisation terroriste, Saïd Khatibzadeh a déclaré « Les affaires étrangères américaines profitent des derniers jours de leur mandat pour compléter leur rôle destructif dans une affaire honteuse imposée au Yémen et pour pousser les négociations de paix dans l'impasse. » Il a déclaré que depuis le début de la guerre, les États-Unis étaient un soutien majeur des crimes de la coalition d'agression menée par l'Arabie Saoudite contre le Yémen. Le commandant de l'armée de l'air iranienne, le général de brigade Aziz Nasirzadeh, a déclaré que la force aérienne iranienne avait atteint un niveau élevé de puissance et de capacité de défense en s'appuyant sur des ressources et des installations nationales. Le commandant a noté que les pilotes de la République islamique d'Iran avaient à plusieurs reprises surpassé les revendicateurs du pouvoir. Par conséquent, ils ne permettent même pas aux ennemis de passer à une agression ou à des menaces contre le pays, a-t-il souligné. Et dans le même temps, la marine iranienne a déclaré que ses hélicoptères de guerre sous-marins avaient intercepté et suivi un sous-marin étranger alors qu'il s'approchait de la zone où se déroulait l'exercice. Le sous-marin a quitté la zone de forage immédiatement après s'être rendu compte qu'il avait détecté, a indiqué la marine. L'événement est survenu en plein exercice de la marine iranienne baptisée Ehtedari Daryai 99. La puissance militaire navales en français qui se sont déroulées les 13 et 14 janvier sur les côtes de Makran dans le sud-est de l'Iran et les régions du nord de l'océan Indien. Damas dénonce la coordination entre les États-Unis et les terroristes. Le ministère syrien des Affaires étrangères a envoyé des lettres au secrétaire général de l'ONU et au président du Conseil de sécurité condamnant l'attaque menée par le régime sioniste contre la région de Deir ez-Zor. L'agression sioniste contre Deir ez-Zor a coïncidé avec les actions terroristes, criminelles et répressives des FTS, kurdes affiliés aux États-Unis contre le peuple syrien a attaqué Deir ez-Zor et Raqqa, a rapporté l'agence officielle syrienne SANA. Damas a souligné que ces attaques étaient soutenues par le gouvernement américain et la soi-disant coalition anti-Daesh, ce qui démontre une coordination claire et ouverte pour la mise en œuvre des projets américains et de certains mercenaires. Le ministère syrien des Affaires étrangères a poursuivi que la coïncidence des raids sionistes avec les actions criminelles des groupes terroristes dans différentes parties de la Syrie indiquait une sorte de coordination entre de toutes les parties hostiles à la Syrie qui ont occupé une partie du pays et violé sa souveraineté et sa stabilité politique. Damas a également souligné que les sionistes et les pays hostiles à la Syrie ont travaillé dur pour mener à bien leur plan afin de soutenir le terrorisme takfiriste et la réalisation des projets séparatistes. La Corée du Nord a exhibé ses missiles balistiques lors d'un défilé. Un éventail d'équipements militaires a été exposé durant un défilé nord-coréen, parmi lesquels des chars d'assaut et des lance-roquettes. Sur les photos diffusées par la KCNA, l'agence de presse officielle de la Corée du Nord, la mention Pak-Kuksan 5 apparaît sur un SLBM, ce qui pourrait indiquer une amélioration de ce missile lors d'une parade militaire en octobre. En épilogue, plusieurs missiles qui semblent être, selon des analystes, de nouvelles versions de missiles balistiques à courte portée et des SLBM ont été exhibés sur des camions. L'arme la plus puissante au monde, le missile balistique lancé par sous-marin est arrivé sur la place, un missile après l'autre démontrant la puissance des forces armées révolutionnaires, a rapporté KCNA. Les nouvelles souches de COVID-19 mettent en péril le système de santé publique africain selon l'OMC. Les nouvelles variantes du COVID-19 qui ont été signalées dans plusieurs pays africains sont susceptibles de nuire gravement aux efforts visant à contenir la pandémie sur le continent, a déclaré jeudi la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Et elle a indiqué que face à la propagation des nouvelles souches du virus, des mesures d'endiguement solides étaient nécessaires pour éviter qu'une pression excessive ne pèse sur le système de santé publique du continent africain. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Restez avec nous, nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. L'Iran a organisé un important exercice militaire, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Les missiles de croisière de la marine iranienne tirés du bord de la mer et des navires au cours de la deuxième journée d'un exercice militaire à grande échelle a réussi à atteindre des cibles dissimulées dans le nord de l'océan Indien et dans la zone d'exercice définie. L'opération a eu lieu lors de la dernière étape de l'exercice militaire massif de la marine dans la mer d'Oman, baptisée de Ertedor et Dariaï, force navale 99. Le commandant adjoint de la marine chargé de la coordination, le contre-amiral Hamze Ali Kaviani, porte-parole de la manœuvre, a déclaré que l'Iran avait une capacité très élevée dans le domaine des missiles de croisière et que la marine était en possession d'un large éventail d'entre eux. La puissance à fort impact des missiles de croisière, avec différentes portées disponibles pour la marine, en a fait des armes efficaces dans les batailles navales, a-t-il de souligner encore. Le commandant a déclaré que les informations sur certaines armes et des systèmes utilisés dans l'exercice étaient classifiées et n'avaient pas été rendues publiques. Les ennemis doivent savoir qu'en cas de violation et d'empiètement sur la frontière maritime de la République islamique d'Iran, ils seront visés par des missiles de croisière depuis la côte et la mer, a-t-il averti. De plus, pendant l'exercice, le sous-marin Pafoté de fabrication nationale a pour la première fois tiré des torpilles qui ont frappé leur cible, a de souligner encore de ce commandant. Des drones, a-t-il ajouté, ont également été utilisés lors de différentes missions de reconnaissance et de combat au cours de cet important exercice militaire. Au premier jour de la manœuvre, l'Iran a inauguré son plus grand navire militaire, le porté d'hélicoptère Macron. La marine a pris des livraisons du Macron, un navire logistique conçu pour soutenir les missions de la marine dans des eaux plus lointaines, telles que la partie nord de l'océan Indien, le détroit Bab-el-Mandeb et la mer Rouge. Des missiles de croisière sol-sol et des torpilles ont également été tirés à partir de sous-marins développés dans le pays pendant des jeux de guerre, tandis que les unités opérationnelles aériennes, côtières et maritimes ont exercé des tâches spéciales. La semaine dernière, le corps des gardiens de la révolution islamique a dévoilé une ville de missiles de souterraine stratégique le long de sa côte sud du golfe Persique, qui, selon la force, était l'une des nombreuses installations de missiles de ce type.
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce vendredi 15 janvier 2021. Pour la quatrième fois consécutive, Israël a lancé des frappes aériennes contre la Syrie du 12 au 13 janvier visant les villes de Deir ez-Zor, d'Abu Kamal et d'Al-Mayadin. Contrairement aux chiffres avancés par les médias mainstream, ces attaques n'ont fait qu'un mort et 5 blessés côté syrien. En effet, les forces de la résistance ont été mises en état d'alerte et la DCA syrienne a intercepté plusieurs de ces missiles tirés par le régime israélien. Israël a multiplié ses attaques contre la Syrie au cours des derniers mois. Il s'agit d'une réaction, en effet, aux victoires de l'armée syrienne face aux groupes terroristes, notamment Daesh, soutenu par le régime de Tel Aviv. En réaction à ces attaques, le ministère syrien des Affaires étrangères a souligné que les frappes israéliennes faisaient preuve en effet d'une coordination et d'un accord avec les groupes terroristes. Damas a également appelé l'ONU à empêcher Israël de répéter de telles agressions en violation, bien entendu, de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la Syrie. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ces nouveaux agissements de l'entité israélienne contre la Syrie, ses objectifs à l'approche de l'investiture du nouveau président américain, mais aussi, en effet, la résistance, les plans de la résistance, la riposte de la résistance face à ce nouvel aventurisme du régime israélien. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Que s'est-il passé juste dans la nuit de 12 au 13 janvier à l'est de la Syrie? La résistance a-t-elle perdu une bataille contre l'axe US-Israël alors qu'elle lui promet une mortelle riposte? Interrogé par Spatnik, le général de division Al-Nizar Al-Kader, commandant en chef de la 17e division de l'armée syrienne, apporte quelques intéressants éclaircissements qui contredisent le flot désinformationnel de ces dernières heures. Selon le général des avions F-16 d'Israël, envoyé par l'US Air Force dans le ciel d'Al-Tanf, avait pour mission pas tant de frapper Deir ez-Zor, Abu Kamal, Al-Mayadin que de briser le mur aérien créé par l'armée syrienne russe au nord du périmètre dit de 55 km que l'Amérique a établi dans le ciel de la zone. À défaut de pouvoir briser au sol l'encerclement total de ses troupes basées à Al-Tanf, l'opération renvoie en effet droit, ajoute le général, à une tentative désormais habituelle de l'administration US visant à recomposer Daesh via l'endiguement des opérations aériennes syriennes et russes ou leur compromission, lesquelles opérations conjuguées au raid au sol continue à étouffer dans l'œuf Daesh renaissant. Et le général d'ajouter, ayant échoué à percer le mur aérien au nord de la zone 55 km, l'un des 6 missiles israéliens tirés et non interceptés par la DCA syrienne à l'aéroport de Hamdan s'est abattu sur la branche de la sécurité militaire à Deir ez-Zor, ce qui entraînait la mort d'un soldat de l'armée et en a blessé 5 autres. Les frappes visaient également les quartiers généraux des forces alliées dans le village d'Ayesh, anciennement des dépôts de munitions à l'ouest de Deir ez-Zor, ainsi que le poste frontière d'Al-Boul Kamal dans le village d'Al-Hiri. Mais là, les dégâts ont été uniquement matériels. Pas de victimes iraniennes, ni irakiennes, ni afghans, a dit le général en allusion claire à la force ROTS, au Hajd et au Fatemiyoun. À peine 3 jours avant que cette 4e frappe stérile de l'entité depuis le début de 2021 n'ait lieu, quelques 800 chercheurs et universitaires iraniens ont signé une lettre à l'adresse du commandant en chef du département aérospatial de la force ROTS, où ils ont appelé à ce que la moindre tentative de violation de l'espace aérien ou maritime iranien, voire son rapprochement même par les avions ennemis B-52 ou l'USS, soit immédiatement ripostée, comme en juin 2019, quand la DCA iranienne a abattu un RQ-4 US dans le ciel du sud du pays, noyant à jamais sa réputation.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Moscou avec Fabrice Barr, expert pour l'ONG EODE, et depuis Damas avec Arnaud Develay, maître Arnaud Develay, juriste international. Maître Develay, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Monsieur Barr.
Maître Develay, ces derniers jours, l'entité israélienne a multiplié ses frappes contre la Syrie. Pourquoi le régime de Tel Aviv, en effet, pour la quatrième fois consécutive en deux jours, pourquoi le régime de Tel Aviv continue de s'acharner sur la Syrie, Maître Develay?
Ben écoutez, je pense qu'il faut voir les choses dans le contexte des événements à Washington, avec une administration Trump qui avait, si je puis dire, collaboré extrêmement intensément avec l'entité sioniste depuis 4 ans, s'arrangeant le droit de délivrer sur un plateau, si je puis dire, une reconnaissance de la souveraineté, entre guillemets, israélienne sur le Jordan syrien, en défiance de toutes les résolutions onusiennes sur le sujet, en déménageant l'ambassade américaine de Tel Aviv à Ashdod, encore une fois en défiance de tous ces textes, et alors même que Donald Trump est empêtré dans des affaires internes, et cela alors qu'on sait que Mike Pompeo a fait beaucoup de voyages récemment, notamment une rencontre avec le responsable des renseignements israéliens, on peut considérer que ce sont un petit peu des tentatives désespérées de créer un état de fait qui transformerait, si je puis dire, l'équation de telle sorte que les Américains, que ce soit sous Trump ou sous l'administration Biden, qui pourtant a laissé entendre qu'elle rejoindrait la table des négociations concernant ses relations bilatérales avec l'Iran, transformer donc de manière qualitative l'équation de telle sorte que les Américains soient amenés à intervenir et à au moins rester, si ce n'est pas rester dans la région, à amplifier leur présence, voire même intervenir directement aux côtés des Israéliens dans le cadre d'un conflit régional. Donc c'est une stratégie de la surenchère. Les Israéliens sont encerclés balistiquement. Des expertises ont été publiées récemment, laissant entendre que l'armée sioniste est dans un état de décomposition morale et logistique avancée, et que non seulement la situation en Syrie s'est retournée complètement contre l'entité sioniste, mais maintenant avec l'émergence de la résistance yéménite, c'est carrément sa possibilité de projection militaire dans la mer Rouge et au-delà qui s'en trouve complètement contenu. Donc je pense qu'il faut considérer ces attaques, ces raids, si je puis dire, qui sont des raids périphériques, hein, l'espace aérien syrien étant verrouillé, ce sont des raids qui traduisent une certaine fébrilité, une certaine inquiétude quant à la viabilité du projet en lui-même.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous. On va tout de suite se rendre à Moscou pour rejoindre Fabrice Boer, expert pour l'ONG Ode. Monsieur Boer, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour. Merci à vous également.
Monsieur Boer, la diplomatie syrienne a réagi, bien entendu, soulignant que ces tentatives désespérées, comme disait Maître Develay, cette stratégie de surenchère, en effet, faisait preuve d'une coordination et d'un accord entre le régime de Tel Aviv et les terroristes. Dans quelle mesure, la défaite définitive, en effet, des terroristes en Syrie mettrait en péril les intérêts et les projets stratégiques du tandem américain-israélien?
C'est une question qui est intéressante à double titre parce que, évidemment, et je vais répondre à cela en ce qui concerne la question du Proche-Orient, mais en même temps, ça, je prendrai en exemple ce qui se passe aussi en Afrique parce que c'est exactement là ce qui arrive, à savoir que la politique américaine a été, jusqu'à très récemment, jusqu'à la fin du XXe siècle, c'était un peu d'ailleurs le reste de la guerre froide où c'était des affrontements où on envahissait un pays militairement. C'est ce qu'ils ont fait avec l'Irak, c'est ce qu'ils avaient voulu faire avec la Somalie. Mais ça, aujourd'hui et depuis un certain temps, les Américains ont bien compris qu'ils n'avaient plus les moyens de pouvoir être partout, surtout qu'ils étaient, on va dire, face à des adversaires. Et ils ont élaborer une stratégie qui est celle, évidemment, soit de sous-traiter à certains pays, soit de sous-traiter à des mercenaires. Et l'essentiel n'étant pas d'occuper la totalité du pays, mais des zones stratégiques, et s'ils ne peuvent l'occuper, d'installer le chaos pour que leurs ennemis ne puissent pas en profiter. Et aujourd'hui, évidemment, le terrorisme est le prétexte pour justifier la présence de troupes. Et des fois, c'est le prétexte pour bienvenue, et souvent, c'est le prétexte qui a été créé de toutes pièces. Et là, je fais juste un aparté, mais très très rapide, justement, sur l'Afrique, où depuis la destruction de la Jamaïca par Paris, Londres et Washington, le chaos s'est installé dans le Sahel, et la présence militaire française n'a pas pu, jusqu'à présent, et américaine, et n'a jamais su réduire ces groupes terroristes. Et même d'ailleurs, là où les bases américaines en Afrique arrive, le terrorisme arrive en même temps. C'est assez bizarre. Et pour revenir sur le Proche-Orient, et en particulier sur la Syrie, on notera, et c'est évidemment un secret de polichinelle, que ce groupe de Daesh dans le désert syrien se renforce depuis ces dernières semaines, mais à partir de l'excroissance cancéreuse de la base américaine d'Al-Tarif. D'ailleurs, d'où viennent, entre parenthèses, la zone aérienne, les bombardements américains ou israéliens. Et donc aujourd'hui, oui, ils ont besoin de ce prétexte terroriste pour leur présence, et la disparition de cette présence terroriste ferait qu'ils n'auraient plus d'argumentation. Alors, lorsque Daesh sera totalement réduit, ils ont déjà prévu le coup, et on voit bien avec la politique grossière des Américains, Pompeo, qui a indiqué que le chef d'Al-Qaïda avait été domicilié en Iran. C'est à se tordre de rire. Vous allez me dire qu'aujourd'hui, il y a encore une grosse proportion d'Américains qui pensent que qui ne font pas de différence sunnite-chiite, qui ne font pas de différence entre les Iraniens et le monde arabe. Bon, les nuances, ce n'est pas tout à fait leur truc. Hein. Le monde est blanc ou noir chez eux. Il n'est pas fait de nuances et de complexité et de richesse. Donc, c'est assez plus simple. Donc, pour conclure sur votre question, la fin de la destruction de ces groupes terroristes annihile toutes leurs politiques de déstabilisation des pays et de la justification de leur présence militaire. S'il n'y a plus de terroristes en Syrie, il n'y a plus de raison d'avoir des soldats américains dans le nord. S'il n'y a plus de terroristes en Syrie, il n'y a plus besoin d'avoir Al-Tarif. S'il n'y a plus de terroristes en Syrie, pourquoi à ce moment-là bombarder le territoire syrien? Et s'il n'y a plus de terroristes en Syrie, comment va faire le régime d'Erdogan pour continuer à justifier sa présence et sa politique agressive vis-à-vis de la République arabe syrienne? Donc on est au cœur du problème, c'est-à-dire de la manipulation de la, on va dire, du prétexte antiterroriste pour justifier une politique classique impérialiste. Et dans le cas précis, évidemment, plus de terroristes, ça veut dire que certains pays, tout du moins, sortent de la guerre, d'autres se renforcent, et ça ne fait que valider le fait qu'Israël est de plus en plus effectivement encerclé. Mais peut-être qu'on parlera dans une deuxième question du fait que la présence russe également en Afrique, et en particulier sur la côte est africaine, joue aussi un rôle dans cette reconfiguration géopolitique dans la région.
Merci pour ces éclairages, Monsieur Bauer. Restez avec nous, s'il vous plaît. Maître Develay, au-delà de cette manipulation du prétexte antiterroriste, quel a été l'impact des frappes israéliennes sur le pouvoir de dissuasion de l'armée syrienne au moment où, justement, vous avez évoqué tout à l'heure, la résistance en général dans la région connaît une montée en puissance très, très importante?
Écoutez, encore une fois, je pense que ce sont des tentatives désespérées. Il faut comprendre que depuis le mois de juin dernier, et depuis la visite... je crois que c'était le ministre de la Défense iranien à Damas. Il y a eu une conclusion d'accord militaire sur la fourniture d'équipements balistiques. Et le résultat a été presque instantané. Je veux dire, avec l'installation des cordes à trois à la frontière syro-libanaise, au Jolan, avec le déploiement des Bavar 373, vraiment la configuration a complètement été altérée de telle sorte que on est passé maintenant en Syrie d'une position défensive en termes de DCA, en termes de contrer les frappes aériennes israéliennes, à la possibilité non seulement de rendre ces frappes quasiment ineffectives, mais aussi essentiellement est le moment venu de transformer ce dispositif en système offensif. Donc la réponse, elle est très simple, c'est qu'en fait la justification effectivement pour la préservation de la base d'Al-Tanaf permet d'entretenir l'idée peut-être qu'avec la nouvelle administration, en faisant le pont entre l'administration Trump et celle de Biden, les Israéliens continueront, si je puis dire, à chevaucher le prétexte factice de contenir le terrorisme dans la région. Mais et il faut garder à l'esprit quelque chose d'important, c'est que la narrative maintenant est celui de dire qu'on est passé d'un terrorisme takfiriste à un terrorisme soi-disant incarné par les milices soutenues par l'Iran. Je mets des cotations entre les deux extrémités du terme. Mais on voit déjà que, et ça participe d'ailleurs à ce que Trump disait, c'est que Daesh ayant été défait, il s'agissait maintenant de rester dans la région pour, je cite, non seulement prendre le pétrole iranien, mais aussi garder un œil sur l'Iran. Donc on commence déjà à voir l'esquisse de la prochaine campagne de vente, si je puis dire, de la présence américano-sioniste dans la région vis-à-vis des opinions publiques occidentales. Donc il faut rester vigilant. De toute façon, nous sommes au cœur d'un processus qui est sur le long terme. L'expulsion des Américains de la région ne se fera pas aussi rapidement qu'on pourrait le souhaiter. Ce sera une guerre d'usure. Et à la fin du processus, l'expansion du sang et du trésor, comme les Américains aiment à le dire, fera en sorte que les contradictions internes de leur vocation à amener une forme de démocratie et de stabilité dans la région finira par le biais du fait que cette politique impériale a rendre la situation intenable en interne de telle sorte qu'ils seront obligés de rapatrier leurs forces pour contenir la colère populaire aux États-Unis.
Merci encore, Maître Develay. Une toute dernière question, très probablement à Monsieur Bohr. Monsieur Bohr, on a l'impression qu'aujourd'hui, justement, les règles du jeu, les règles du conflit ont complètement changé en faveur de l'axe de la résistance. Alors, est-ce qu'on pourrait, concernant toujours les récents agissements de l'entité israélienne en Syrie, déduire que là, il s'agit d'une politique de fuite en avant au dernier jour du mandat de Donald Trump? Et puis, après cette période, c'est-à-dire à partir du 20 janvier, avec bien entendu l'implication, plutôt l'engagement en effet, de la Russie dans ces évolutions, à quoi faudrait-il s'attendre, M. Bohr?
Bon, il est sûr que la défaite de Trump est une mauvaise nouvelle pour Netanyahou. C'est une évidence, vu leur lien. Et ils ont profité effectivement de la dernière fenêtre pour autant leur public intérieur que pour... C'est presque le dernier cadeau de Trump, on va dire, à Israël, qu'ils ont essayé de le faire. Mais bon, on ne va pas revenir sur la partie technique de la chose, puisqu'on sait très bien, et ça a été dit auparavant, qu'ils ont fort à faire aujourd'hui avec les nouveaux systèmes de DCA. Et il y a cet élément-là, mais pour répondre et pour élargir et non pas regarder simplement cette action à la loupe, il faut donc voir plus large, voir le cadre. Et là, effectivement, on rentre toujours dans la géopolitique et la Russie, qui depuis un certain temps accélère sa présence dans le monde, sa présence en Afrique également, mais qui a une incidence sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc dans la région du Proche-Orient, c'est qu'elle a aujourd'hui, bien qu'il y ait eu un changement de régime à Khartoum et que Pour autant, ça ne se passe pas bien comme ils le pensaient, puisque la partie civile, c'est carrément des employés, c'est des gens qui ont la double nationalité, qui sont américains, c'est des gens des Soros Jungen, on va les appeler comme ça. C'est direct. Mais sauf que l'armée est toujours, on va dire, avec une bonne orientation, et que la Russie a des avions à Khartoum, ce qui d'ailleurs a permis pour la Centrafrique de bombarder les tentatives de coup d'État. Mais c'est pas aussi... le plus important, c'est qu'il y a une base qui va être faite dans les prochains mois ou années. Si ce n'est pas au Soudan, ce sera en Érythrée, ce qui veut dire que la Russie, la flotte russe, aura une base également dans la région, et ça va influer, effectivement, parce qu'elle aura une base à Tartous, donc au nord, Israël, et une base au sud, dans une région importante, d'ailleurs, pour le commerce mondial. Et donc, nous avons effectivement la puissance russe qui vient et qui contrebalance cette présence occidentale et des forces américaines. Tout cela fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on pourrait se dire Biden, c'est lui qui a signé aussi l'accord que Trump a signé sur le nucléaire iranien. Mais ce n'est pas Biden qui a été mis en place. Je ne me rappelle plus de son nom d'ailleurs, voilà. C'est Harris, la vice-présidente, et celle-ci, elle est appelée Madame Soros, parce qu'elle est très très proche de Soros, plus que ça même, on va dire, de la famille directement. Et donc je pense que la politique qu'on pouvait attendre des États-Unis, qui serait revenue sur les accords et dans la signature par exemple sur l'accord nucléaire iranien, ne se fera pas, parce que cette charte Mandam fait partie d'une génération qui non seulement sont très éloignés de l'Europe. Alors Biden, il avait des liens familiaux, etc. C'était quand même plus complexe. Mais avec la nouvelle génération au pouvoir aujourd'hui aux États-Unis, l'Europe, ils n'en ont strictement rien à faire, et ils sont dans une politique bien plus radicale en réalité. Et nous avons des néoconservateurs qui, peu importe qu'ils soient républicains ou démocrates, c'est bipartisan, aujourd'hui vont revenir en force, et même pour la Russie, on le voit avec Nuland qui va revenir pour l'Eurasie, donc ce qui va se passer en Ukraine, ça va se réchauffer, donc je pense que là, sur l'Iran également, on va avoir des surprises. Donc finalement, on est dans une situation où ce qui a été détruit par Trump ne va pas être réparé par la nouvelle administration.
Merci.
Mais qui va être complexifié de par la nouvelle présence dans la région, qui est la présence russe, la présence militaire au nord, donc en Syrie, et dans la corne de l'Afrique. Et ça peut changer énormément de choses, comme la résistance du Yémen, et en particulier également comme l'axe de la résistance et la route, le lien entre Téhéran jusqu'à la Méditerranée. Et ça, c'est quelque chose, un élément nouveau qui fait qu'on ne peut être que, on va dire, optimiste sur l'issue du conflit, même comme ça a été dit, ce sera encore long, il y aura encore du sang et de la sueur, malheureusement, parce que l'impérialisme américano-sioniste, évidemment, ne lâchera pas prise facilement.
Fabrice Barre, expert pour l'ONG ODE depuis Moscou, Maître Arnaud Develet, juriste international depuis Damas, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Parole d'experts.
Lors des cérémonies du 11 novembre, le chef d'état-major de la marine française, l'amiral Pierre Vandier, avait indiqué au président Macron que le groupe aéronaval formé autour du porte-avions Charles de Gaulle mettrait le cap vers la Méditerranée orientale, puis vers le golfe Persique lors de son prochain déploiement en février 2021. Cette information a été confirmée ce 12 janvier par la ministre des Armées, Florence Parly. Comment analyser cette décision de la marine française? Écoutons à ce sujet l'analyse de Pierre Dortiguier, politologue français.
«
déclaration de l'amiral ne nous aurait pas surprise si le but du voyage aurait été de cette armée, enfin ce déplacement maritime aurait été la Méditerranée orientale, car chacun sait que le gouvernement soutient, à notre avis de façon aveugle, le gouvernement grec dans sa polémique avec le gouvernement turc sur les zones, sur les zones maritimes, tout cela, et que le gouvernement français, disons, a pris les choses de façon, à notre avis, excessive, car tout ceci ne peut se résoudre que par des compromis. Mais dans cette affaire-là, je le soutiens, nous avons, disons, soutenu le gouvernement grec qui a fait avec une société, qui a couvert, disons, une société israélienne en Méditerranée d'exploitation du pétrole en mer. Voilà, ça c'est une chose qui a été dite, redite. Donc là-dessus, nous sommes enchaînés à des intérêts privés, disons, particuliers, et ça n'a pas été, disons, notre décision n'a pas été approuvée, en tout cas, par d'autres Européens, en particulier les Allemands. Mais le fait de dire que cet amiral parle du Golfe Persique, et signifie que dans la droite ligne de ce qu'a fait M. Macron, le gouvernement, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, voyez-vous, il l'a dit ici quand il était en Irak, veut des manifestations de force, voyez-vous, pour pouvoir intimider, ce n'est pas agresser, mais c'est une forme d'agression, mais intimider le gouvernement, iranien, et engager avec lui vraiment des négociations qui ne portent que sur, à notre avis, un seul fait que M. Macron avait déjà mis en évidence au moment du blocus, vous savez, américain, et au moment où les Américains, pardon, se sont retirés du fameux accord de Vienne. Il a dit qu'il fallait que l'Iran, désarme, c'est-à-dire désarme du point de vue des armes, se débarrasse de ses armes balistiques, etc., pour ne pas menacer ses voisins. Bien. Et alors, ses voisins, c'est-à-dire, tout le monde sait quel est ce voisin, et ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas le Liban, bien sûr, ce n'est pas la Syrie, c'est l'entité sioniste, voilà. Je crois que là-dessus, nous nous sommes alignés dans cette démonstration de force, voyez-vous, ce que je appellerais plutôt une intimidation, car nous n'avons absolument pas les moyens, bien sûr, de frapper l'Iran. Enfin, je m'excuse de dire ça comme cela, mais c'est une utopie. Nous ne pouvons pas, la France ne peut pas opérer, disons, militairement, sans avoir l'appui logistique américain, sans avoir, je ne dis pas politique, je dis bien logistique américain, sans être soutenu par l'ensemble des forces de l'OTAN. Nous agitons un drapeau, mais disons, nous avons certainement le Charles de Gaulle est remarquable, mais disons, comme on dit, il faut le pousser, l'entretenir. Et ceci donc reste, à notre avis, cette déclaration de l'amiral, qui est une déclaration entièrement politique, bien sûr, qui est exigée de lui, disons, par le ministère des Armées, participe d'une politique d'intimidation, et il faut la prendre comme telle. Et disons, je dirais, en fait, elle est inquiétante d'un certain côté, mais le courage consiste à ne pas la prendre au sérieux. Voilà.
Merci infiniment, cher prophète.
Il y a 30 ans commençait l'opération Tempête du désert dans le golfe Persique. Il y a 30 ans de cela, à l'aube du 17 janvier 1991, commençait dans le golfe Persique l'opération Tempête du désert, la guerre Koweït-Irak, qui ouvrait la séquence des guerres de l'après-guerre froide. Elle est lancée par les États-Unis et par leurs alliés au moment où, après l'effondrement du mur de Berlin, vont se dissoudre le pacte de Varsovie et l'Union soviétique même. Cela crée une situation géopolitique entièrement nouvelle et les États-Unis tracent une nouvelle stratégie pour en tirer le plus grand avantage. Dans les années 80, les États-Unis ont soutenu l'Irak de Saddam Hussein dans la guerre contre l'Iran. Mais quand, en 1988, la guerre se termina, les États-Unis ont redouté que l'Irak n'acquiert un rôle prééminent dans la région. Ils opèrent donc de nouveau la politique du divisé pour régner. Ils poussent donc le Koweït à exiger le remboursement immédiat du crédit concédé à l'Irak et à lui nuire en exploitant outre mesure le gisement pétrolifère qui s'étend sous les deux territoires. Washington fait croire à Bagdad que les États-Unis resteront neutres dans le conflit entre les deux pays. Mais quand, en juillet 1990, des troupes irakiennes envahissent le Koweït, Washington forme alors une coalition internationale contre l'Irak. Est envoyée dans le golfe Persique une force de 750 000 soldats, dont 70% sont états-uniens, sous les ordres du général américain Schwarzkopf. Pendant 43 jours, à partir du 17 janvier, l'aviation américaine et alliée ont effectué, avec 2 800 avions, plus de 110 000 sorties, larguant 250 000 bombes, dont celles à fragmentation, qui lâchent donc plus de 10 millions de sous-munitions. Participent au bombardement aux côtés des États-Unis les forces aériennes et navales britanniques, françaises, italiennes, grecques, espagnoles, portugaises, belges, hollandaises, danoises, norvégiennes et canadiennes. Le 23 février, les troupes de la coalition, comprenant plus d'un demi-million de soldats, lancèrent l'offensive terrestre. Elle se termina le 28 février avec un cessez-le-feu temporaire proclamé par le président américain Bush. Immédiatement après la guerre Irak-Koweït, Washington lance à ses adversaires et alliés un message sans équivoque. Les États-Unis demeurent le seul État avec une force, une portée et une influence en toute dimension politique, économique et militaire réellement mondiale. Il n'existe aucun substitut au leadership américain. À cette guerre, l'OTAN, bien que n'y participant pas officiellement en tant que telle, met à disposition ses forces et ses bases. Quelques mois plus tard, en novembre 1991, le Conseil Atlantique lance, dans le sillage de la nouvelle stratégie américaine, le nouveau concept stratégique de l'Alliance. Dans la même année, en Europe est lancé le nouveau modèle de défense qui, renversant la constitution de la quasi-totalité des pays européens, indique comme mission des forces armées la tutelle des intérêts nationaux partout où c'est nécessaire. Ainsi naît avec la guerre Irak-Koweït la stratégie qui guide les guerres successives sous commandement américain. Yougoslavie en 1999, l'Afghanistan en 2001, l'Irak en 2003, la Libye en 2011, la Syrie aussi en 2011 et d'autres évidemment, présentées comme des opérations humanitaires pour exporter la fameuse démocratie. Témoigne de combien cela correspond à la vérité, les millions donc, de morts, d'invalides, d'orphelins, de réfugiés provoqués par cette première guerre, celle qu'en août 1991, le président Bush a qualifié de creuset du nouvel ordre mondial. S'ajoute à ceci 1,5 million de morts, dont 500 000 d'enfants, provoqués en Irak par les 12 suivantes années d'embargo, plus de nombreux autres dus au fait à long terme des projectiles à l'uranium appauvri utilisés massivement dans la guerre. Et après celui de l'embargo, le nouveau provoqué par la seconde guerre contre l'Irak lancée en 2003. Dans ce même creuset vont être brûlés des milliers de milliards de dollars dépensés pour la guerre, rien que pour la seconde guerre contre l'Irak. Le bureau au Congrès du budget estime la dépense états-unienne à long terme à environ 2 000 milliards de dollars.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.